trois bas alpins interpellés après un vol sur des invendus.
Ils avaient stationné leur fourgonnette près du parc des invendus d'un supermarché à Manosque. C'était mercredi. Les deux majeurs sont convoqués devant la justice. Le mineur de 17 ans fera l'objet d'un rappel à la loi.
Les pompiers alpins appelés en renfort dans l'Aude.
Un renfort préventif de la colonne Alpes du Sud. Ils sont 56 pompiers, 36 sauts alpins, 20 bas alpins. Avoir pris le départ tôt ce matin.
Des rues de Barcelonnette plongées dans le noir depuis hier soir.
Conséquence des intempéries, le pôle technique doit intervenir ce matin pour trouver l'origine de cette panne.
La communauté de communes Alpes-Provence-Verdon se penche sur son SCOT.
Son schéma de cohérence territoriale. Des réunions publiques ont eu lieu tout l'été, l'enquête se poursuit. Mais quelle est l'importance d'un SCOT? Réponse avec Jean-Louis Chabot, vice-président en charge de ce domaine.
Une avalanche de riders à Praloux.
La station accueille de ce vendredi la Maxi Avalanche Europe Cup ou particularité. Les professionnels et amateurs s'affronteront. Côté météo.
Alors, pour les Hautes-Alpes, ça va être un peu compliqué encore ce matin, avec de nombreux nuages. Le ciel va rester chargé, surtout sur une partie du Champsaur, également du Queyras, ou du nord du département, sur le Briançon et partout ailleurs. Le temps va tout doucement revenir avec quelques éclaircies et un peu de soleil. Sur les Alpes de Haute-Provence, par contre, la journée restera bien ensoleillée. Et les températures, par contre, restent un peu fraîches, entre 21 et 27 degrés sur les Hautes-Alpes, un peu plus sur les Alpes de Haute-Provence. Elles vont amorcer leur hausse. Elles seront comprises entre 24 et 30 degrés. Le week-end s'annonce plutôt beau, un soleil généreux pour demain samedi et une journée estivale pour dimanche. À Manosque, trois personnes interpellées dans une tentative de vol.
Cette femme de 45 ans et ces deux hommes de 17 et 27 ans ont été appréhendés mercredi à la mi-journée par les policiers de la ville. C'est un témoin qui avait donné l'alerte voyant une fourgonnette stationnée près du parc des invendus d'un supermarché. Ces trois bas alpins ont été entendus par les fonctionnaires de police. Le mineur qui a été remis à ses parents fera l'objet d'un rappel à la loi. Les deux autres seront convoqués pour ordonnance pénale en novembre prochain. Et puis toujours mercredi à Manosque, vers minuit, les policiers sont également intervenus au domicile d'un couple. En pleine séparation, une altercation a éclaté entre les deux, âgés de 21 ans. La femme aurait été saisie à la gorge et projetée au sol par l'homme. Ce dernier, qui présentait un taux d'alcool d'1,5 g, n'aurait pas accepté cette situation. Sur place également, la mère du Manosquin. Si la jeune femme n'a pas souhaité déposer plainte, son ex-compagnon a reconnu les faits. Il sera convoqué en novembre devant la justice. En attendant, il a interdiction de s'approcher de la victime.
Les pompiers alpins appelés en renfort dans l'Aude.
Une mission préventive pour 36 pompiers des Hautes-Alpes et 20 pompiers des Alpes d'Haute-Provence. Ils sont attendus à la mi-journée sur le secteur. C'est tôt ce matin, à 4 heures, que le débriefing des équipes a eu lieu. 12 engins des Hautes-Alpes ont également pris le départ. La colonne Alpes du Sud viendra donc en soutien préventif aux pompiers d'Occitanie soumis au risque de nombreux départs de feu. La sécheresse fait craindre aux agriculteurs basalpins une absence de levée de leurs semis. Le département présente en effet un important déficit pluviométrique par rapport à la moyenne des 30 dernières années, ainsi qu'un faible indice d'humidité des sols. La préfecture a donc pris la décision d'accorder deux dérogations. La première repousse de 21 jours, donc au 10 septembre, la date limite d'implantation des cultures dérobées. La seconde accorde une dérogation à la levée pour les exploitants qui seraient confrontés à une absence de levée ou une levée partielle des semis. Les dérogations ne sont pas accordées automatiquement. Chaque déclarant PAC doit en faire la demande à la DDT.
Des rues de Barcelonnette plongées dans le noir suite aux intempéries dans la nuit de ce jeudi à vendredi.
L'éclairage public des rues Manuel et Béraud était hors service hier soir dès 20h. Malgré l'intervention du pôle technique, il n'a pu être rétabli. Les équipes interviendront à nouveau ce matin pour trouver l'origine de cette panne générale. À Gap, ce n'est pas une panne qui explique l'obscurité dans certains quartiers, mais on a tout simplement appuyé sur le bouton off. La ville réduit encore un peu plus sa facture d'énergie. Après avoir baissé de 2 degrés la température des bassins de la piscine municipale, la mairie a décidé d'étendre le nombre de quartiers dans lesquels l'éclairage public est éteint la nuit, de minuit à 5 heures. Et donc désormais, c'est la moitié des 300 armoires de commande qui est concernée par cette mesure. Un bon moyen également de protéger l'environnement nocturne.
Dans le reste de l'actualité, le SCOT Quesaco.
Le SCOT, le schéma de cohérence territoriale. territoriale. Des territoires qui sont amenés à s'y pencher pour le dessiner. C'est le cas de la communauté de communes Alpes-Provence-Verdon, la CCAPV. Des réunions publiques ont eu lieu tout l'été. L'enquête se poursuit également sur Internet. Jean-Louis Chabot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-président en charge du SCOT. Le SCOT, en fait, si on le résume, c'est simplement une feuille de route pour l'aménagement des prochaines années.
C'est tout à fait ça. Le SCOT, c'est l'aménagement des ensembles des politiques publiques menées afin de réaliser un développement équilibré du territoire. C'est avant tout une vision de notre territoire à une vingtaine d'années. C'est pour ça que nous avons décidé, par les réunions publiques, d'associer le maximum d'intervenants et surtout d'associer les jeunes par quelque chose qui était un peu original. Nous avons fait travailler le collège multisite de Saint-André-Castellane à Nantes autour de questionnements sur l'habitat, sur l'organisation du territoire, sur leur vision du territoire dans les prochaines années, car c'est eux qui le pratiqueront, c'est eux qui seront les acteurs, et il nous a paru important de les associer pleinement à cette démarche, ainsi qu'associer la population sur des réunions publiques qui ont eu lieu à Castellane, Saint-André, à Nantes.
En fait, dans un SCOT, il faut trouver un équilibre à la fois sur l'aménagement urbain, c'est-à-dire, vous l'avez dit, hein, notamment les habitations, les logements, il y a aussi l'agriculture, les exploitations, il y a aussi la mobilité, et puis il y a aussi l'emploi, le volet économique. Et c'est quand même très compliqué d'assurer un équilibre.
Exactement, c'est très compliqué d'assurer un équilibre, c'est d'autant plus compliqué sur un territoire aussi vaste que le nôtre, puisqu'il faut quand même rappeler que la communauté des communes fait un quart du département des Alpes de Haute-Provence pour à peu près 12 000 habitants. Donc, je veux dire, territoire très vaste, territoire peu peuplé, territoire avec peu d'entités fortes qui puissent être le chef de file autour d'elles. On a plusieurs pôles qui sont reconnus comme tels et qui doivent être les chefs de file. Des pôles qui doivent permettre un développement cohérent, mais sans oublier les petites communes, sans oublier personne. Et c'est là où il y a des difficultés, avec une force environnementale qui est énorme, puisque on a quand même sur notre territoire le parc national du Mercantour, le parc régional du Verdon. On a beaucoup, énormément de zones qui sont en Natura 2000. Donc
c'est des contraintes supplémentaires.
C'est des contraintes supplémentaires. Toutes ces contraintes-là, il faut les faire vivre ensemble, il faut arriver à trouver un équilibre, comme vous l'avez dit, un équilibre qui est difficile, mais que l'on arrivera à trouver. Et puis il y a l'emploi, il y a le logement, et puis il y a le gros problème de la mobilité. Chez nous, la mobilité, c'est quelque chose qui est très très problématique. Je veux dire, on a une logique de vallée, je veux dire des éloignements, il y a très très peu de services publics au niveau de la mobilité, c'est compliqué. Et puis tout le reste qui va avec, je veux dire, il faut se pencher sur la santé, il faut se pencher sur les zones d'activité. Voilà.
Vous avez assisté à toutes les réunions, vous l'avez dit, 41 communes au sein de la CCAPV. Qu'est-ce qui ressort? Alors, bien sûr, il y aura un bilan qui sera fait plus tard, mais en tout cas, vous qui avez assisté à ces réunions, qu'est-ce qui ressort de la part des habitants?
Ben, les habitants ont une vue hétéroclite, certes, mais une vue qui va dans le sens de ce qui est. Alors, je ne sais pas si c'est le fait que quand on a travaillé sur quelque chose et quand on a travaillé sur quelque chose pendant des mois et quand on en revient aux habitants et aux personnes qui pratiquent ce territoire tout le jour sans être élus. On garde que la vision positive des choses qui nous font à venir, ou si c'est le débrief nous le dira ça. Je pense que les visions en commission et ce qui remonte des habitants, il y a beaucoup beaucoup de points communs, et je pense que notre feuille de route n'est pas si mauvaise que ça, et que notre vision du territoire au même titre que celle des jeunes qui vont eux le pratiquer dans à l'avenir, quoi, le territoire, et qu'il faut qu'il soit construit pour eux, puisque c'est eux qui vont travailler dedans, qui vont être la force du territoire.
Et oui, vous l'avez dit, pour les 20 prochaines années, jusqu'en 2040. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Louis Chabot, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la CCAPV en charge du SCOT. Et donc, il y a pour ceux qui auraient loupé ces réunions publiques, il y a toujours un questionnaire qui est disponible en ligne pour pouvoir y répondre sur ce SCOT, votre territoire en 2040. Vous l'imaginez comment? Direction le www.ccapv.fr.
C'est à inscrire dans vos agendas, assisteront au temps du Moyen-Âge.
On se plonge en 1436 dans la ville citadelle ce samedi et dimanche avec le passage du fort. Ce sera la 9e fête festival. Troubadours, battleurs, gueux et chassiers et même chevaliers seigneurs seront rendez-vous pour plonger les visiteurs dans une ambiance moyenâgeuse, festive et colorée. D'ailleurs, si vous aussi vous voulez enfiler les tenues de l'époque, l'atelier de Naïs propose à la salle René Cassin dès ce vendredi une location de costumes. À la citadelle, tout au long du week-end, retrouvez le marché artisanal avec ses souffleurs de verre, ses forgerons, ses potiers, même ses chirurgiens médiévaux. Des spectacles équestres et de fauconneries et des tournois de chevalerie vous feront faire un bond dans le passé. Quant au centre-ville de Sisteron, ces rues seront décorées d'oriflammes, tout comme les vitrines et les commerçants. Prenez aussi rendez-vous pour samedi soir avec le récital de Luc Arbogast, révélé dans l'émission de The Voice en 2013.
Alpin Sport. Alpin Sport.
Pralou continue d'écrire ses lettres d'or dans le VTT.
La station accueille dès ce vendredi la Maxi Avalanche Europe Cup, une course VTT DH avec un départ en mass start avec près de 200 pilotes répartis en vagues de 50 à 70. Ils s'affronteront sur un parcours de 11 km de long pour 1195 mètres de dénivelé depuis la cime de Peguiéou jusqu'au village du Vernet-Four. Amateurs et professionnels peuvent participer et c'est là où se démarque la Maxi Avalanche dans le panorama du VTT. Georges Edwards, dirigeant de la société UCC Sport Event et organisateur.
Là, évidemment, se côtoient aussi bien les pros que les amateurs. Les gens, à l'issue de cette qualification, sont positionnés sur les lignes et par groupe de niveau. C'est-à-dire que le dimanche matin, les meilleurs, les 100 meilleurs, participent à l'Europe Cup, les 100 suivants participent à la Maxi Challenger et les 100 suivants, enfin les autres, participent à la Maxi Amateur. Et donc il y a un classement dans chaque groupe, ce qui permet à tous de participer, de jouer avec vos potes, à vous tirer la bourre, ou évidemment pour les meilleurs, de se positionner pour le classement qui sera important, puisque à l'issue des deux manches du dimanche, sera proclamé le classement final de la saison 2022.
Place vendredi aux essais libres avant les essais officiels demain matin et les qualifications. 9 nationalités sont déjà au rendez-vous et pour les riders en herbe, la Mega Kids pour les pilotes de moins de 14 ans.
Le temps est venu de rechausser les patins et réarmer les crosses.
C'est du hockey sur glace. Les équipes alpines ont repris le chemin de l'entraînement cette semaine. Mardi pour les Diables Rouges de Briançon, mercredi pour les Rapaces de Gap. Une préparation qui se poursuivra demain avec un derby amical entre les deux formations de Ligue Magnus. L'occasion de tester les nouveaux effectifs. Ce sont les Rapaces de Gap qui accueillent des 20h à l'Alp Arena avant un match au retour mardi, cette fois sur la patinoire briançonnaise René Froger. Quant à la reprise du championnat, ce sera le 9 septembre avec un déplacement à Anglette pour les Gapençais et Mulhouse pour les Briançonnais.
La Manoskine n'aura pas lieu.
Ce concours de pétanque devait avoir lieu pendant 3 jours dès ce samedi dans la cité Giono, mais les organisateurs font savoir que, faute de participants, eh bien le tournoi n'aura pas lieu. Le parking du terreau est donc à nouveau accessible.
Retrouvez, réagissez à l'actualité des Alpes du Sud à tout moment sur les réseaux sociaux.